Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air, le désespoir et maintenant la colère. Deux mois seulement après les inondations de novembre, le Pas-de-Calais se retrouve sous l'eau, donc avec des crues qui engloutissent encore les habitations, les terres agricoles. Malgré l'arrivée sur place de méga pompes venues de toute la France, de l'Europe, malgré le défilé de membres du gouvernement et la promesse d'aide, les élus de terrain et les sinistrés dénoncent maintenant un appareil d'État qui n'a pas su les protéger et prendre les bonnes décisions quand il était encore temps. Xavier Bertrand, patron de la région, hausse le ton, lui aussi, ce matin. Alors, y a-t-il en réalité une responsabilité du gouvernement quand l'eau se met à monter? Comment aménager ces zones inondables? Ces sinistrés qui sont éreintés par cette crue sans fin seront-ils réellement indemnisés? Où en sont les aides qui ont déjà été promises au mois de novembre? Inondation. Que peuvent les politiques? C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Christophe Barbier. Vous êtes éditorialiste politique, conseiller de la rédaction pour le journal Franc-Tireur. Nicolas Béraud est avec nous. Vous êtes journaliste au service Futur du Parisien qui titre aujourd'hui « La malédiction du Pas-de-Calais ». Vous y signez ce reportage « Désolation dans la vallée de l'Aa, à nouveau sinistrée par les crues. On se sent impuissant et oublié. » Vous allez nous raconter ce que vous avez vu sur place. Arnaud Gosseman, vous êtes avocat en droit de l'environnement. Vous êtes également professeur associé à l'Université Paris 1. Enfin, Audrey Boutard, vous êtes grand reporter à France Télévisions. Vous êtes spécialiste des faits de société. Bonsoir à tous les quatre.
Bonsoir.
Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je le disais, vous, Nicolas Béraud, vous étiez sur place au mois de novembre et puis vous êtes retourné dans le Pas-de-Calais. C'est la désolation. Chacun choisit son mot. Qu'est-ce que vous avez vu sur place?
Très concrètement, alors on peut passer de village en village parce que les routes de village en village sont un peu en hauteur, mais dès qu'on arrive dans chaque village, notamment dans la vallée de cette rivière AA, deux fois la lettre A, au bout d'un moment, on ne peut plus avancer, la route est barrée, il y a des panneaux route barrés, puis il y a 20, 30, 40 cm d'eau, parfois 1 mètre, 1,50 m. Il y a des dizaines de maisons qui ont 1 mètre, 1,50 m d'eau chez elles, tout simplement parce que le fleuve qui coule au milieu du village, il a tellement débordé que le centre-ville, parfois quasiment tout le village est inondé. Et donc on a les habitants qui soit sont chez eux à l'étage, soit sont dans la rue, soit ont été évacués.
C'est allé très vite, la façon dont ça s'est passé cette fois-ci. Vite.
En quelques heures, oui. L'eau peut monter extrêmement rapidement. Et là, les habitants que j'ai rencontrés hier dans la vallée ont été frappés par la vitesse à laquelle...
Ils nous le racontent,
ils nous disent beaucoup plus que la nuit, qu'en novembre dernier, lors du premier épisode. Et c'est extrêmement angoissant pour eux, parce que certains sont évacués, par exemple, ont été évacués le mardi soir, donc soit par les pompiers ou par les élus municipaux dans des salles communales, soit chez des amis ou chez des voisins dans des maisons plus en hauteur. Et puis ils quittent leur maison, ils ne savent pas du tout comment est-ce qu'ils vont la retrouver le lendemain. Ils reviennent le lendemain matin et qu'est-ce qu'ils voient? 1,50 m, impossible d'entrer dans la maison. Donc il y a de la désolation, de la lassitude, du ras-le-bol. Il y a de la colère aussi contre les différentes choses, on va en parler. Mais il y a aussi beaucoup de solidarité et ça c'est très frappant et c'est aussi intéressant de le raconter. C'est que tous les habitants s'aident entre eux, ils appellent leurs voisins, ils viennent s'aider. Il y a des conseillers municipaux, il y a évidemment des sapeurs-pompiers, des secouristes qui sont dans la rue. On voit les agriculteurs qui viennent avec leurs tracteurs, vous savez, dont les roues sont aussi grandes que nous, donc ils peuvent passer dans l'eau. Mais on voit des scènes assez improbables. Hein, de
ce
gens
qui est terrible, pardonnez-moi, je vous ai coupé, mais c'est cet effet de répétition.
Bien sûr. Bien sûr. Alors, en novembre, donc premier épisode de crue exceptionnel, notamment de l'Aa, mais aussi d'autres rivières du Pas-de-Calais comme la Liane. Quand j'y étais, il y avait de la désolation, il y avait de la tristesse. Là, il y a aussi de la colère maintenant, parce que c'est un peu l'effet ras-le-bol, quoi. Il y a des habitants qui venaient à peine de remplacer leur machine à laver ou leur congélateur, qui venaient à peine d'avoir 2000 euros de l'assurance, et on en reparlera aussi, pour faire des premiers travaux. Et qu'est-ce qui se passe? Ils retournent chez eux, ils voient tout à nouveau détruit. Donc ils sont angoissés pour les assurances, est-ce que ça va pouvoir marcher, etc.
C'est vrai qu'ici, sur ce plateau, on n'imagine pas forcément ce que sont en train de vivre ces gens depuis le mois de novembre avec une inondation. Et je me tourne vers vous, Audrey Boutard, parce que c'est des actualités que vous avez beaucoup couvertes. Vous avez beaucoup été confronté à ces témoignages de gens, comme vous le racontez très bien, Nicolas Béraud, qui arrivent chez eux et qui, parce que ça dure des semaines.
Ça dure des semaines.
Le moment où ça monte et le moment où il faut attendre que ça redescende.
Et alors, ce qui est très intéressant dans son témoignage, lorsque j'étais jeune reporter au Parisien, j'ai fait couvert énormément, comme vous, des inondations. Et alors, mais c'était pas du tout la même chose, en fait.
Ah bon ?
C'est-à-dire que le désespoir des gens était le même, mais les situations n'étaient pas les mêmes. Pourquoi ? Parce que, d'abord, c'était souvent au sud de la France. C'était souvent des épisodes cévenols. C'était souvent des inondations au printemps. Ça se passait en une fois. Une fois, et c'était incroyable. Ce qui est terrible dans votre récit, c'est que c'est à répétition. C'est qu'on est face à des phénomènes qu'on n'a jamais connus. Et que moi, en tant que reporter, lorsqu'il y a une quinzaine d'années, je les couvrais, ça n'était pas du tout pareil. C'est-à-dire qu'il y avait un désespoir, mais c'était un désespoir très temporaire. Il y avait une colère aussi, mais ce n'est pas du tout la même colère. C'était la colère de gens qui considéraient qu'il allait falloir reconstruire et puis qu'effectivement, les maires ou les préfets n'avaient pas fait ce qu'il fallait, il y avait une désertification, les zones, les haies n'avaient pas été faites dans les champs comme il fallait, etc. Alors que là, on voit bien que les maires et les élus sont face à une problématique où ils n'ont pas de solution, pas de solution concrète, puisque c'est très nouveau. Et ça, c'est pour moi, c'est très intéressant de le noter.
Arnaud Gosselin.
Le mot colère revient souvent, et notamment dans votre reportage, une personne s'exprime, et je pense qu'elle exprime une colère, en expliquant qu'il est difficile de combattre la nature. Et donc, on a l'impression d'une sorte de risque naturel extérieur à nous qui nous a menacés, qui compromet nos conditions d'existence. Et pourtant, ce que nous disent les scientifiques est un peu différent de cette perception totalement humaine et légitime d'une personne qui est en train de subir un drame. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas un risque naturel extérieur à nous, mais il y a beaucoup une cause humaine à ce que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une pluie, mais cette pluie, le véritable problème, c'est les sols. C'est ce que n'absorbe pas les sols en réalité. C'est ça qui crée ensuite la catastrophe dans laquelle nous sommes.
Arnaud Gosselin, qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel ?
Alors,
j'interviewais François Gémen, un des co-auteurs des rapports du GIEC, qui connaissait le sujet par cœur, qui me disait en fait rien. Cette semaine, il me disait rien parce que, en fait, ça va se reproduire. Et ça s'est déjà reproduit, puisqu'au mois de novembre, il y a déjà eu des crues assez exceptionnelles. Quand vous regardez la situation telle qu'elle est aujourd'hui pour les habitants du Pas-de-Calais.
Alors, il y avait un géologue aussi qui disait la même chose.
Oui.
François Gémen, chez vous, dans les colonnes du Monde hier soir, qui précisait qu'effectivement, ce n'est pas exceptionnel. C'est même au niveau de la pluviométrie, de la quantité d'eau qui a pu tomber, si on compare par rapport à d'autres épisodes, effectivement, c'est violent, c'est intense, et le changement climatique contribue à cette violence. Mais en réalité, le principal problème sur lequel j'insistais, c'est l'artificialisation des sols. Et ça ne saute pas aux yeux. C'est contre-intuitif, presque. On se dit, le danger vient d'en haut, on dirige sa colère vers ces éléments-là, mais en réalité, le danger vient du bas, de ce sur quoi nous sommes, et la responsabilité de notre société à ce niveau-là est écrasante.
Nous en reparlerons, Arnaud Gosselin, de la question de l'artificialisation des sols, puisque certains élus s'opposent notamment à une loi qui prévoit la zéro artificialisation des sols. Christophe Barbier, on précise juste qu'il y a peut-être des gens qui nous regardent ce soir et qui disent « bon, ça se passe dans le Pas-de-Calais, je ne me sens pas concerné », alors peut-être que c'est le cas et on leur souhaite, sauf qu'il y a quand même un Français sur quatre qui vit aujourd'hui en zone inondable.
Bien sûr, c'est un risque maintenant qui s'étend sur une partie du territoire et de la population sous des formes diverses. C'est sûr que l'épisode Cévenol, c'est pas la même chose que ce qu'on voit dans le Pas-de-Calais. C'est pas la même chose que ce qu'on a pu connaître à la Faulte-sur-Mer quand il y a eu la grande tempête. Donc chacun est exposé à ce risque-là. Puis il n'y a pas que les inondations, il y a aussi beaucoup d'autres risques. Songeons qu'on a passé l'été à parler de populations sinistrées parce qu'elles n'avaient pas assez d'eau. Et qu'on se disait du côté de Perpignan, comment on va faire, non seulement pour remplir les piscines, mais pour arroser les cultures, pour prendre une douche. Donc vous voyez, le péril de l'eau, il est par le manque comme par l'excès. Le gouvernement et le président ont développé un plan eau pour pallier les carences. Eh ben, on va voir s'ils arrivent à avoir un plan d'infrastructure, d'investissement, de lutte pour mieux s'adapter à ce climat nouveau qui nous menace.
Nicolas Béraud, dans l'urgence, là, est-ce que lorsqu'ils sont dans cette situation-là, ils n'ont pas d'autre choix que de se dire on va attendre, un, qu'il arrête de pleuvoir et deux, que l'eau finisse par s'écouler. Je parlais tout à l'heure des mégapompes. J'avais découvert, moi, en préparant cette émission, que ça existait, des mégapompes qui évacuent l'équivalent d'une piscine olympique en un quart d'heure, qui viennent de Slovénie, qui viennent de partout en France pour essayer d'accélérer les choses.
Oui, tout à fait. Alors, il y a des habitants qui, dans leur maison, pompent l'eau dans la cave. Il y a des habitants qui m'ont montré, bah voilà, j'ai 30 cm d'eau, mais sans la pompe, il y aurait un mètre. Donc ça, c'est à l'échelon très local. Et il y a effectivement ces énormes pompes, donc qui sont arrivées la nuit dernière de différents pays européens et qui permettent de renvoyer plus rapidement l'eau des rivières vers la mer. Parce que comme ce sont des territoires qui sont souvent assez plats, l'eau qui déborde des rivières met énormément de temps à repartir vers la mer. Et du coup, tout au long du fleuve, village après village, le niveau monte, puis rebaisse. Et comme ce que disait Arnaud Gosselin, depuis novembre, les sols dans le Pas-de-Calais sont extrêmement gorgé d'eau. Donc là, il est tombé 100 mm de pluie localement en 3 jours, ce qui est beaucoup. Mais 100 mm de pluie, quand ça tombe sur des sols gorgés d'eau, ça devient énormissime. C'est-à-dire que les sols sont tellement gorgés d'eau qu'ils ne peuvent plus rien absorber. Et donc tout ce qui tombe quelque part, ça commence à déborder quelque part, si je puis dire, dès les premières gouttes. Et donc forcément, ça fait des cumuls très importants. C'est pour cette raison qu'on a eu là, de l'avis des habitants, et je l'ai vu de mes propres yeux, des hauteurs d'eau plus importante qu'en novembre, alors qu'en novembre, il y avait des pluies, là, pour le coup, vraiment exceptionnelles.
À quoi ressemble le quotidien? Toute l'activité économique est à l'arrêt?
Ah bah, toute l'activité est à l'arrêt. Les gens, ils peuvent pas aller travailler. Et, certains me disaient, bah, je devais reprendre aujourd'hui, donc c'était hier, mais j'ai pas pu. J'ai appelé mon employeur, j'ai dû m'organiser. Puis il faut aussi s'organiser pour sa vie de famille, sa vie privée. Si les enfants, alors là, c'est les vacances, donc c'est particulier, mais les enfants sont à la maison, etc. Donc oui, la vie est à l'arrêt. Il y a même des entreprises, enfin tous les commerces sont à l'arrêt. Les commerces qui sont inondés, évidemment, ils sont plus là à attendre que l'eau parte. Ils sont totalement à l'arrêt. Donc les commerces sont à l'arrêt. Beaucoup de routes sont impraticables. En plus, les routes qui sont inondées, on l'a vu avec la personne qui est malheureusement décédée. En Loire-Atlantique, il ne faut surtout pas l'emprunter parce qu'il y a un risque très important qu'on se retrouve coincé. Donc oui, la vie économique est à l'arrêt. Mais comme je vous l'ai dit, il y a énormément d'entraide. Donc on s'aide entre nous, on héberge des gens, les agriculteurs donnent des coups de main, etc. Mais pour ce qui est de l'activité, bien sûr, c'est stoppé.
On va poursuivre cette discussion. Ça recommence. Les mêmes visages marqués, les mêmes images à perte de vue, de rues inondées, de maisons avalées par la montée des eaux. À Blindec, la lassitude le dispute à la colère avec des habitants mais aussi des élus locaux qui ont un sentiment d'abandon malgré le défilé de membres du gouvernement, Aïn Maquignon, Nicolas Bidart et Arnaud Fora.
À Blandec, les mêmes scènes qui se répètent. Des rues inondées, des pompiers par dizaines et des habitants évacués. La rivière Aar est une nouvelle fois sortie de son lit.
J'ai entendu des gens à 4 heures qui criaient dans la rue, ils demandaient qu'est-ce qui se passait. Et quand j'ai ouvert ma persienne en haut de ma chambre, 4h30, j'ai vu tout le monde, j'ai dit, mon Dieu, ça recommence, mon Dieu. Et mon mari, il a attendu, parce qu'il a entendu des gens crier. Et il a commencé à pleurer.
La peur et la détresse chez les habitants. 1300 maisons concernées, 370 personnes évacuées et 500 foyers privés d'électricité. Alors aujourd'hui, en guise de soutien, deux ministres ont fait le déplacement.
Vous avez été touché lourdement ?
Deux fois, oui. Alors que j'étais propriétaire de la maison que depuis 10 jours.
Vous avez acheté début novembre ?
27 octobre.
Face à la colère, Christophe Béchu, en charge de la transition écologique, assure avoir mis tout en œuvre pour éviter de nouvelles crues.
Lundi, dans 3 jours, la Navigate de France va commencer du dragage, par exemple. Des opérations qui... Pourquoi elles commencent lundi ? Elles n'ont pas commencé il y a 15 jours. Parce qu'il fallait voir les agriculteurs, être sûr qu'il fallait qu'on le fasse aux bons endroits, se mettre d'accord avec tout le monde sur le fait que ça ne posait pas de difficultés sur les autres éléments. Et personne n'imaginait, début décembre, quand on a activé des quantités de mesures, qu'on aurait à nouveau un épisode de ce type dès le début du mois de janvier.
Un discours peut-être insuffisant pour apaiser une population éreintée. En novembre dernier déjà, les habitants du Pas-de-Calais ont vu l'eau s'engouffrer dans leur commune et jusque dans leur maison. À l'époque, ils croyaient encore pouvoir lutter contre l'eau.
Tout le monde met la main à la pâte et je trouve ça excellent. Franchement, c'est bien, c'est bien. Il y a une bonne équipe.
Pour moi, c'est un jeu sans fin, quoi. Tant que la pluie n'est pas... Voilà, on n'a pas fini de tomber, quoi. Voilà, c'est ça, tant que la pluie elle est là, vous faites des digues ici, ça pètera 5 mètres, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas facile, quoi. Donc tant que la pluie elle tombe comme ça, il faudrait que ça s'arrête et puis que ça s'arrête pendant des semaines et des semaines, quoi. Parce que ça n'a pas le temps de s'évacuer. Hein.
Mais la pluie n'a pas vraiment cessé. 2 mois plus tard, le sort s'acharne.
Ici, on a 30 cm.
Et l'impuissance politique est pointée du doigt.
Maintenant, ça ne peut pas durer. Il faut que les pouvoirs publics agissent et fassent les zones d'extension de crues, qu'on arrête les projets, qu'on arrête de perdre du temps et qu'on avance quand même pour éviter d'avoir ça, quoi.
Même sentiment pour les élus municipaux en première ligne dans la gestion de crise. Avec cette banderole accrochée sur sa maison, l'adjoint au maire de Blandec appelle l'État à prendre ses responsabilités et à détruire son quartier, inondé pour la 3e fois. Dans le Pas-de-Calais, 189 communes sont concernées par la montée des eaux. Autant d'élus en colère sur les plateaux de télévision.
Il nous avait été promis donc des fossés de tamponnement, des bassins de tamponnement. On est en 2023 et on n'a toujours pas. Oui, je suis en colère parce qu'on a l'impression qu'on ne nous écoute pas et qu'on nous laisse comme ça dans le danger.
Et quand la colère gronde, les politiques se renvoient la balle. Face au ministre présent sur place aujourd'hui, le président de la région accuse l'État.
Mardi, il faut qu'on sache c'est quoi les travaux, qui les commande, qui les paye, quelle entreprise les fait. Et ça commence quand ? On nous explique savamment la différence entre le nettoyage et le curage. Maintenant, on est super calé. Hein. On sait bien la différence entre l'autorisation et la déclaration. Mais on s'en fout de ça. Ce qu'on veut juste, c'est de savoir quand les travaux peuvent commencer.
Le ministre de la Transition écologique n'exclut pas de déclarer certaines zones inhabitables. Il sera de retour dans la région dès mardi.
Et la question que tout le monde se pose après ce reportage et qui est posée par Lionel en Haute-Garonne, y a-t-il réellement eu une défaillance des pouvoirs locaux dans l'entretien des systèmes de protection contre les inondations ? Nicolas Béraud, vous avez été sur le terrain, on a entendu la colère des élus qui estiment que rien n'a été fait, en tout cas pas suffisamment pour anticiper.
La colère des élus, la colère des habitants aussi. J'en parlais contre la nature, mais aussi contre les élus, et pas spécialement les maires, parce qu'ils sont, eux, vraiment au plus près du terrain, mais plutôt les élus au-dessus. C'est compliqué, parce que les responsabilités sont sûrement nombreuses. Par exemple, on va sûrement parler des bassins de rétention. Des choses ont été mises en place, à Blindec et dans les autres communes. Depuis la précédente crue très importante de 2002, il y a eu des bassins de rétention qui ont été installés, il y a eu des digues, il y a eu des aménagements. C'est, en général, à la charge soit de la commune, soit de l'intercommunalité. Mais après, effectivement, il faut les entretenir. Il y a un réseau de canalisation et de systèmes pour éviter qu'il y ait des crues dans le Pas-de-Calais. La Cour des comptes avait pointé dans un rapport il y a quelques années que ça manquait d'entretien. Et donc, ce n'était pas forcément suffisamment efficace pour éviter ce qu'on a là. Donc, les responsabilités sont nombreuses, mais pour ce qui est de lancer des projets, en général, c'est pour ce qui est des bassins de rétention à l'échelle de la commune ou de l'intercommunalité, avec le soutien de l'État et de plein d'autres acteurs par-dessus.
J'entendais tout à l'heure le maire de Neuville-sous-Montreuil. Il s'appelle Olivier Dequen. Je ne sais pas comment on prononce, pardon si j'écorche son nom, qui était très en colère parce qu'il disait le problème c'est l'entretien des cours d'eau qui n'est pas fait et qui fait que quand il y a des épisodes pluvieux très longs et comme c'est le cas dans le Pas-de-Calais, eh bien ça déborde et ça provoque cette situation-là. Et il dit c'est pas de notre responsabilité, il faut qu'on demande l'autorisation de l'État. Et il dit laissez-nous faire. C'est un peu ce que dit Xavier Bertrand qui dit laissez-moi gérer la question de l'eau.
Oui, non, bien sûr. Alors effectivement, les élus locaux et les habitants disent beaucoup laissez-nous faire. Pourquoi ça prend des années? Un truc qui revient aussi beaucoup, c'est un habitant me disait mais là on va encore nous promettre des investissements, des plans, des bassins de rétention, mais il faut pas que ça prenne 8 ans quoi. On a besoin de ça l'an prochain. On a besoin de ça si ça repart en octobre. Donc il y a aussi peut-être quelque chose à faire sur les démarches administratives, sur toutes les différents échelons qui peuvent retarder la mise en place de projets. Après un bassin de rétention, ça sort pas de terre en 2 jours non plus. Hein.
La gestion de l'eau, mais qu'on me la file, la compétence. Le vrai problème, c'est que cette compétence est assurée par l'État et les syndicats. Voilà ce que dit Xavier Bertrand, qui est président de la région Hauts-de-France. Sous-entendu, si ça ne va pas assez vite, ce n'est pas de ma faute, c'est celle du gouvernement.
C'est faux. C'est faux d'abord parce que depuis 2018, ce sont bien les communes et surtout les intercommunalités qui ont la principale compétence, notamment pour les ouvrages qui sont destinés à prévenir le risque d'inondation. C'est faux aussi parce que la région des Hauts-de-France est la deuxième région la plus bétonnée en France, la plus artificialisée, sans compter aussi une agriculture qui a des effets sur les sols et sur la qualité des sols, notamment en termes d'absorption des eaux. Et l'artificialisation des sols est un sujet qui a été combattu par Xavier Bertrand, qui s'est plaint d'une loi votée en 2021, qui a fait partie des élus locaux, qui a obtenu que cette loi soit considérablement affaibli en 2023. Et ça, évidemment, il ne le répète pas. Mais aujourd'hui, il y a une responsabilité de beaucoup d'acteurs, même de tout à chacun, pas simplement d'une personne. Ce n'est pas juste le gouvernement ou l'État qui est responsable. Et lui, effectivement, n'assume pas sa propre responsabilité dans cette affaire-là.
Mais si on met de côté la question de l'artificialisation des sols, sur laquelle on va revenir dans un instant, notamment avec ce qui se passe en région Rhône-Alpes-Auvergne, est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels on n'a pas pris suffisamment compte la situation locale, la question de construire en zone inondable, par exemple. Christophe Béchu disait que la question de délocaliser certaines personnes n'était plus tabou, qu'il fallait aussi se poser ces questions-là. Est-ce qu'on a attendu le dernier moment pour prendre cette décision?
Évidemment, vous avez près de 27% des habitants en France qui habitent dans des zones inondables. Concrètement, ils ne devraient pas y être. Concrètement, quand vous demandez un permis de construire pour être dans ces zones-là, vous avez une responsabilité. Lorsque le maire vous l'accorde, vous avez également une responsabilité, parce qu'il y a des risques de gonflement argileux, il y a des risques de submersion marine, il y a des risques de débordement de cours d'eau, sans compter les autres risques naturels, mouvement de terrain, incendie, etc., etc. Donc il y a des responsabilités plurielles, et oui, effectivement, on n'assume pas d'un bout à l'autre de la chaîne nos responsabilités. En matière d'urbanisme, par exemple, oui, en tant qu'avocat, je le vois très, très...
Alors, encore une fois, il y a ce qu'on se dit ici, et puis il y a des gens qui habitent dans un quartier, dans une région, un département depuis des années, qui ont toute leur vie là-bas, à qui on va dire, bon, bah, il va falloir aller aller habiter ailleurs. Encore une fois, Christophe Béchu n'exclut pas de déclarer des zones inhabitables. On va dire aux gens, à ces 189 communes qui sont concernées dans le Pas-de-Calais, vous déménagez.
Non, on ne va pas le faire comme ça. Mais aux Pays-Bas, par exemple, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Plutôt que de lutter contre la nature, aux Pays-Bas, dans les années 90, c'était chez vos confrères de Libération ce matin, dans un excellent article, effectivement, ils disent « on va faire avec ». Et avec, ça veut dire que dans certaines parties des Pays-Bas, effectivement, il y a des projets pilotes où on discute avec la population et on fait des déplacements. Mais on fait des déplacements en expliquant aux gens aussi qu'on n'aurait pas dû les laisser s'installer à cet endroit-là. En France, à Vaison-la-Romaine, à Nîmes ou à Sommières, à chaque fois qu'il y a eu des débordements, il y a des personnes qui venaient d'emménager de manière assez récente. Ce n'était pas les arrière-arrière-grands-parents qui étaient là. Hein, ou à la Faute-sur-Mer aussi, par exemple, si on cite cet épisode dramatique, 600 maisons touchées, effectivement, elles n'auraient jamais dû être là. Et dans le temps, les pêcheurs se mettaient sur la colline en face.
Par exemple, celui qu'on entendait dans le reportage, le jeune homme qui disait « je viens d'acheter ma maison », on n'aurait pas dû le laisser acheter sa maison à cet endroit-là.
Mais évidemment, mais il y a aussi une pression des administrés. Combien de fois je l'ai vu, des maires qui me disent « vous comprenez ?» Il y a l'administré qui me croise dans la rue qui me dit « bon allez, c'est pas juste pour une maison, le lotissement il y en a déjà 30, ça sera la 31e, c'est pas grave, laissez-moi construire ma maison ». Mais c'est humain, on peut comprendre que la personne ait envie de ça, c'est totalement humain. Mais la responsabilité du politique, à un moment donné, son honneur, c'est de savoir dire non.
Audrey Boutard.
On a une reporter qui a été à Blandec hier, donc Blandec en pleine zone inondable, et qui a été dans un lotissement où les maisons se sont construites il y a encore un an, se construisaient. C'est-à-dire que le prix du terrain était moins cher et moins cher dans ces zones-là qu'ailleurs. Donc c'est-à-dire que les victimes sont les gens les plus paupérisés, ceux qui, et d'ailleurs les témoignages étaient absolument poignants, parce que c'était des gens qui disaient, on m'a dit, le notaire m'a dit que la zone était inondable, mais bon, vous comprenez, ça m'a permis de construire une plus grande maison. Mais c'est ça, en fait, les maires, je comprends très bien leur enjeu, effectivement, de faire plaisir à leurs citoyens, mais il y a aussi, effectivement, ces gens qui vont être à un moment donné obligés de partir, parce qu'ils en sont à la deuxième inondation. Et ils n'imaginaient pas une seconde que ça se produirait ainsi. Parce qu'il y a encore quelques années, les inondations, c'était une fois tous les 10 ans. Mmh. Aujourd'hui, on est sûr que l'année prochaine, il y aura au moins 2-3 inondations dans le même lotissement. Donc ces gens ont tout perdu. C'est clair, ils ont tout perdu et ils sont des dizaines et des dizaines. Parce que le lotissement, ce n'était pas 3 maisons, hein, c'était 50 maisons. Avec des maisons qui avaient été construites avant 1995, puisque avant 1995, les règles n'étaient pas du tout les mêmes, et qui ont été construites il y a, comme je vous le disais, à peine un an, pour un moindre coût.
Et il y a ça, et à l'inverse, il y a aussi des habitants qui me racontaient, mais moi, quand j'ai acheté ma maison il y a 10-15 ans, on ne m'a jamais dit qu'il pourrait m'arriver ça. Par exemple, il y avait un habitant, lui, sa maison, en 2002, lors de la précédente crue, il n'y avait rien eu, parce que les aménagements avaient bien fonctionné à l'époque. Et du coup, il me dit, quand j'ai acheté, j'avais entendu parler de la crue, donc j'ai demandé des cartes satellites en 2002, et j'ai vu qu'effectivement, ma maison, il n'y avait pas d'eau, donc je l'ai acheté. Il me dit, mais comment j'aurais pu imaginer qu'aujourd'hui, elle se retrouve sous l'eau? Donc il y a aussi ces gens-là, et maintenant, il y en a même certains qui envisagent de quitter, ça leur fait mal au cœur, hein, mais de quitter la commune, mais à deux conditions, soit parce qu'ils sont locataires, donc évidemment c'est plus simple de partir, soit ils sont propriétaires, mais dans ces cas-là, c'est à condition que l'État rachète, ce qu'on disait, parce que trouver effectivement un acheteur privé qui rachèterait une maison qui a été inondée 2 fois en 3 mois, si je puis dire, bon courage.
Et d'ailleurs, dans votre reportage, hein, vous interrogez Jean-Jacques, qui est habitant du Pas-de-Calais, et qui dit, on se demande à quoi servent les politiques, à part faire du blabla, leur colère que vous évoquez depuis le début de l'émission, elle est retournée contre qui? Contre le maire? Contre le ministre?
Alors, le maire, pas tellement, parce que souvent, les maires dans ces petits villages de 1000, 2000, 3000 habitants et les élus municipaux sont sur le terrain en chasuble bleu jaune, mais parfois, ils portent les gens sur leur dos. Donc, les maires sont plutôt appréciés, ils sont à portée de bof, comme on dit, etc. C'est plutôt les échelons au-dessus, donc soit les échelons administratifs, soit le gouvernement, même le chef de l'État. Alors, même s'il n'a pas toutes les responsabilités, mais souvent, pour les Français, oui, on s'en remet à lui. Et puis, j'en reviens, colère aussi contre les éléments de la nature qui se déchaînent. Elle est multiple, la colère.
On précise ce que vous disiez tout à l'heure, les collectivités n'ont pas rien fait. 60% des collectivités ont un plan de prévention des risques naturels. Dedans, il y a évidemment la question des inondations. Vous vouliez ajouter quelque chose, Arnaud?
Je voudrais juste citer un exemple où un maire a fait quelque chose de bien. Parce qu'il faut aussi donner des exemples qui donnent à espérer quand même aux personnes qui nous regardent. Il y a un exemple qui est célèbre, c'est à Mandelieu-la-Napoule, c'est dans les Alpes-Maritimes, dans un littoral totalement bétonné, où le prix au mètre carré est très élevé, mais en 2020, il y a eu des inondations meurtrières, des personnes sont mortes à cet endroit-là. C'est vraiment un endroit que je connais bien, qui est très bétonné. Et il se trouve que ce maire a décidé, en plein centre-ville, de geler une très grande partie de l'urbanisation. C'était des champs qui étaient promis à la construction. Et il a même fait démolir des maisons parce que c'était sur le bassin de déversement d'une rivière qui gonfle assez souvent à côté. Des exemples comme ça, il y en a d'autres, fort heureusement. Donc il ne faudrait pas non plus laisser penser que les maires, en général, s'en fichent des livres des permis de construire, etc. etc. Heureusement, heureusement qu'il y a des personnes qui font des choses formidables.
Christophe Barbier, est-ce qu'elle est injuste, cette colère qui se retourne contre les politiques? Dans un cas comme celui-ci, on est face à une catastrophe naturelle, à des inondations à répétition, avec des ministres qui vont sur le terrain, qui annoncent des aides. On peut peut-être rappeler que lors de la précédente inondation dans le Pas-de-Calais, il y avait eu des aides qui avaient été annoncées, 50 millions d'euros. Alors Xavier Bertrand dit que rien n'est arrivé de ces aides-là. Bon, c'était il y a 2 mois. Est-ce que c'est injuste à vos yeux?
Non, elle n'est pas injuste, mais il ne faut pas qu'elle soit stérile. Elle n'est pas injuste, mais elle doit commencer aussi par un examen de conscience, parce que comme vous le disiez, beaucoup de gens veulent s'installer près d'une rivière, c'est magnifique, près du littoral, dans des endroits qui ont été négligés par les générations précédentes et qui semblent si beaux, si ensoleillés, si faciles à vivre. On a vu ça dans les montagnes avec les vieilles maisons qui étaient sur les flancs de coteaux, ça laissait des champs magnifiques, sauf que c'était l'endroit des avalanches. Donc on a construit des résidences secondaires magnifiques dans des endroits à risque. Et donc c'est ces erreurs-là qui ont été commises, et souvent avec des habitants qui disaient « mais moi je veux m'installer là, en effet je paye moins cher le terrain, j'aurai une plus grande maison ». Donc faut quand même commencer
par cette volonté. C'est pas le cas dans le Pas-de-Calais, ce sont des maisons qui datent.
Ce sont des maisons qui datent,
mais c'est pas le cas dans le... fameux village de Blandec, ce sont des constructions qui ont parfois moins d'un an.
Dans le village de Neuville-sous-Montreuil, le maire expliquait qu'il y avait des constructions qui étaient là depuis 1900.
Alors là, la colère, il faut se demander pourquoi. Pourquoi en 1900 ça n'était pas inondé, pourquoi ça l'est aujourd'hui? D'abord parce que il faut monter la garde. Les équipements qui ont été faits, qui ont marché lors de la crue de 2000 ou de 2002, ils ne marchent plus aujourd'hui. Soit ils se sont dégradés, soit il faut augmenter leur performance, parce que le défi climatique, avec ces sols gorgés d'eau, a augmenté aussi sa nuisance. Et puis il faut que les citoyens et les élus locaux interpellent l'État dès aujourd'hui sur les réponses à très long terme, pour les générations suivantes. Et en effet, on s'aperçoit que ça interpelle toutes nos politiques. La politique de logement, la politique de transport, quelle route on fait, quel chemin, à quel endroit. La politique aussi de développement économique global, parce qu'une zone artisanale, une zone industrielle, le développement d'une zone touristique, ça va poser les mêmes questions. Et c'est sûr que si vous voulez attirer les touristes, il vaut mieux les mettre devant la mer. Mais le jour où il y a une alerte vague submersion, ils seront les premiers exposés. Alors quel choix vous faites? Donc il faut prévoir des développements économiques à long terme de ces endroits qui leur permettent de sécuriser leur croissance tout en n'opposant pas les proposant pas à des risques. Les habitants qui se sont installés peut-être un peu vite à des endroits où il ne fallait pas, c'est aussi parce que les communes ne voulaient pas les perdre pour rester en puissance démographique, ne pas perdre l'école parce qu'on n'a plus d'enfants, ne pouvoir attirer une entreprise parce qu'on sait qu'on a des cadres moyens qui ont acheté des pavillons et qui vont être là disponibles. C'est tout ça qui était en jeu. Alors un maire qui dit « mon village, tout le monde est sans sécurité », mais il n'y a plus de village parce que les gens sont partis habiter ailleurs, ce n'est pas un maire qui serait très populaire.
Le problème, c'est la politique, justement. Et parfois, l'urgence commande la politique et les choix politiques. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on va aller au deuxième reportage. On a un peu parlé depuis le début de l'émission. Dans ce contexte, pour certains élus, il est urgent d'attendre. Et les catastrophes en chaîne ne sont pas une raison suffisante pour céder à ce qu'ils appellent l'écologie punitive. C'est le cas de Laurent Wauquiez, le président de la région Rhône-Alpes Auvergne, qui refuse d'appliquer la loi qui propose d'en finir avec le bétonnage d'ici à 2050. Théo Manval, Constance Meyer et Stéphane Lopez.
Il aime s'afficher dans les montagnes de sa Haute-Loire, sur les pentes du mont Mézin. Depuis l'été dernier, Laurent Wauquiez s'y érige en opposant à une écologie qu'il qualifie d'absurde. Le patron de la région Rhône-Alpes promet de ne pas respecter la nouvelle loi contre l'artificialisation des sols qui prévoit de limiter drastiquement la bétonisation d'ici 2050.
On donne l'impression que pour faire de l'environnement, la seule façon de faire en France, c'est de punir les Français.
Zéro artificialisation, tout le monde trouve ça parfait, mais ça a une conséquence très claire. C'est qu'on va avoir des familles sur des territoires où il y a par exemple beaucoup de gens qui s'installent, et on va leur dire, non, vous ne pouvez plus construire. Vous aviez un terrain, il était constructible, mais on va vous expliquer, vous ne pouvez plus construire. Vous pensez qu'il va se passer quoi sur le coût du logement?
La défense des campagnes face aux écolos des villes, le coût politique autant que médiatique lui vaut un rappel à l'ordre du gouvernement.
Il doit y avoir des sanctions ou pas contre Laurent Wauquiez s'il décide de ne pas appliquer la loi?
S'il ne respecte pas la loi, j'espère effectivement qu'il y aura des sanctions.
Parmi ceux pour qui écologie rime avec idéologie à combattre, il y a aussi le RN. À l'automne dernier, le parti a lancé un groupe de travail pour communiquer sur ses propositions en matière d'environnement.
Je vois pas en quoi le bilan carbone serait pire.
Nucléaire, transport, agriculture, un credo, non aux nouvelles réglementations.
L'écologie, c'est pas un postulat idéologique. On va stigmatiser les gens, stigmatiser des méthodes, interdire, sanctionner, faire du dogme, interdire la ligne Paris-Nice en avion pour remplacer. Non.
On parlait des transports.
Vous ne pouvez pas demander aux gens de prendre les transports en commun quand vous avez dans le même temps un rapport sur l'agression, les nombres d'agressions des femmes dans les transports parisiens. La sécurité fait partie de l'écologie.
Au sommet de l'exécutif, en tout cas, on se veut chantre d'une écologie à la française. Encore vanté il y a quelques jours par le chef de l'État lors de ses vœux.
Nous serons déterminés à agir pour qu'en 2024, notre écologie, cette écologie à la française, notre planification continue de se déployer comme un modèle.
Dans les faits pourtant, le modèle annoncé se déploie plus lentement que prévu. Maintes fois promise, la loi de planification sur le climat n'a toujours pas été votée. Certes, le budget 2024 prévoit de l'argent pour l'environnement, 40 milliards d'euros, c'est 7 de plus que l'an passé. Mais dans le même temps, 13 milliards d'euros sont aussi prévus dans des secteurs jugés néfastes pour la planète. Sans compter les subventions aux énergies fossiles, qui représentaient l'an passé plus de 50 milliards d'euros. Des vents contraires, souvent dénoncés par les élus écologistes.
Les planifications, c'est bien, les réunions, la communication, mais il faut de l'action. Et comment vous faites une planification écolo sans ne supprimer aucun grand projet autoroutier, sans ne supprimer aucun projet de méga-bassine, sans ne supprimer aucun projet de ferme-usine? Ça marche pas.
Mais parfois, les tenants du climat eux-mêmes butent sur un principe de réalité. Il y a près d'un an, la métropole de Lyon, pourtant dirigée par les Verts, repoussait l'interdiction des véhicules les plus polluants. La zone à faible émission mise sur pause, un choix salué par d'autres à gauche.
Oui, c'est une bombe sociale parce qu'il y a aujourd'hui 10 millions d'automobilistes qui ont des véhicules de critères 3, 4, 5 qui vont être interdits de se déplacer tout simplement quand ils habitent une petite commune. Je pense à un couple de retraités qui m'a interpellé, qui habite une petite commune, un village d'une métropole et qui a besoin d'aller chercher les petits-enfants, qui a besoin de se déplacer, qui a besoin d'aller chez le médecin et ils ne peuvent se déplacer qu'en voiture, ils ne pourront pas le faire.
Des enjeux et des contradictions politiques qui sont aussi un peu les nôtres. Selon un récent sondage, les Français sont largement convaincus de la nécessité d'agir contre le réchauffement climatique, mais refusent à plus de 60% de se passer de leur voiture thermique, de renoncer à manger de la viande ou de payer plus cher une alimentation locale.
Alors on voit bien toute la difficulté avec ce reportage, hein, des intentions qu'on peut avoir en termes d'aménagement du territoire, on en parlait à l'instant, et de la réalité de ce que cela est de mettre en application ces mesures avec parfois un mécontentement des gens. C'est le cas sur les ZFE dont on va reparler dans un instant. Cette question de Xavier, qui habite le Pas-de-Calais. Ne pourrait-on pas stocker l'eau ou la déplacer vers des régions qui en manquent ?
Très compliqué. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, Christophe Barbier parlait de Perpignan et des Pyrénées-Orientales. Les Pyrénées-Orientales, c'est un département où il pleut extrêmement peu depuis un an. Donc, on parle beaucoup des pluies abondantes dans le nord, dans le Pas-de-Calais et dans la moitié nord. Les Pyrénées-Orientales manquent cruellement d'eau. Donc, effectivement, ça peut sembler du bon sens, mais on est gorgé d'eau dans le nord. Pourquoi est-ce qu'on ne l'amène pas dans le sud ? Ou même, pourquoi est-ce qu'on ne la garde pas pour le nord plus tard ? Évidemment, ça paraît du bon sens, mais c'est extrêmement compliqué. Déjà, en pratique, l'eau des inondations, c'est de l'eau qui est sale, qui est boueuse. Donc, on ne peut pas s'en servir pour recharger les nappes, par exemple. C'est pas sauf sous certaines conditions, mais c'est extrêmement complexe. Et puis l'eau, faudrait la stocker, mais c'est-à-dire qu'il faudrait créer des énormes bassins. Mais comme les sols sont déjà très souvent artificialisés ou occupés par des terrains agricoles, bah on peut pas forcément la stocker, c'est pas évident. Donc ce qui semble être du bon sens effectivement sur le papier, c'est une question tout à fait légitime, est en réalité extrêmement complexe, à la fois pas forcément faisable de par la qualité de l'eau, mais aussi très complexe en pratique.
Sur l'artificialisation des sols et sur cette loi qui est contestée notamment par Laurent Wauquiez, on entendait un de ses arguments qui est dit on peut pas dire aux gens du jour au lendemain, vous aviez acheté un terrain, et ben il est plus constructible.
Alors ça tombe bien parce que personne ne le dit en réalité. L'artificialisation, là, c'est une caricature de cette loi par un homme politique qui est président de région et qui propose de ne pas appliquer la loi de la République. Il y a quelque chose quand même de très choquant, d'autant plus que ce n'est pas très intelligent parce que s'il ne le fait pas, c'est l'État qui récupère la compétence et qui va décider à sa place. L'artificialisation des sols, ça consiste d'abord à se dire où est-ce qu'on va construire. Parce qu'il faut construire, et il faut construire des services publics, des hôpitaux, des crèches, des écoles, etc. Mais en France, depuis 2014, il y a une réflexion qui est née en se disant pourquoi est-ce qu'on va construire dans des espaces sensibles, dans des espaces naturels, pourquoi est-ce qu'on va défricher, déboiser, pourquoi est-ce qu'on va couper des haies, etc. Et pourquoi est-ce qu'on n'irait pas reconquérir des friches, des endroits qui sont gris, qui ont déjà été construits, qui ont déjà été urbanisés. C'est ça l'artificialisation des sols. La lutte contre l'artificialisation des sols, ça ne veut pas dire ne plus construire, ça veut dire ne plus construire n'importe où. Et en fait, quand on parle de ZAN, zéro artificialisation net, le net est important. Ça veut dire qu'on va continuer à construire, mais en compensation aussi, on va rendre à la nature. Il y a une grande loi européenne sur la restauration de la nature qui, espérons-le, sera votée prochainement, elle aussi très caricaturée, qui va permettre de rétablir un équilibre. On réduit l'urbanisation, on ne la met pas n'importe où, on fait des choix aussi d'urbanisation.
Comment est-ce qu'on fait pour rendre à la nature ? On déconstruit ?
Alors, par exemple, vous voyez, quand il y a des épisodes de canicule en ville, on se plaint beaucoup de ne pas avoir d'îlots de fraîcheur, de ne pas avoir développé ce qu'on appelle des continuités écologiques. C'est-à-dire pas d'un côté la ville, de l'autre côté la nature, mais faire en sorte que la nature se déploie absolument partout. C'est même l'un des défis du nouveau plan local d'urbanisme à Paris, qu'on appelle bioclimatique. Donc, attention aux caricatures, on ne va pas empêcher les gens de construire, absolument pas. Mais on va se dire qu'on va cartographier le territoire et les encourager à habiter là où, par exemple, il y a déjà des logements aussi. Ça peut être une solution.
Christophe Barbier.
L'objectif de la zéro artificialisation nette, c'est 2050. Ça laisse quand même un peu de temps pour penser justement ce net. On peut fermer un parking, le transformer en jardin et on récupère cette surface-là pour construire ailleurs. Néanmoins, ça va amener à des choix drastiques. Parce que cette artificialisation des décennies précédentes, c'était pour que chacun puisse avoir sa maison, son jardin, son pavillon, être heureux dans sa vie idéale. Est-ce qu'on va devoir dire aux gens, bah vous allez maintenant être dans de l'habitat collectif et vertical, des immeubles, des tours, parce que ça nous permet, sur une artificialisation limitée, de mettre beaucoup de monde et beaucoup de services. Et vous récupérez de la nature, donc vous serez gagnant quelque part. Ça veut dire impulser un changement de mode de vie et d'idéal de vie à la française.
Est-ce que c'est de l'écologie punitive, comme on l'entend, puisque c'est devenu une expression qui crée une forme de clivage sur la façon dont il faudrait faire accepter les mutations aux Français?
La ZAN n'est pas une écologie punitive, c'est une écologie coercitive. On crée des contraintes, vous ne pouvez plus artificialiser, ou alors, si vous créez un sol artificiel, vous devez rendre un sol à la nature ailleurs. Ça, c'est une contrainte, mais on en a d'autres du même type. La ZFE, la zone à faible émission, là, c'est plus punitif. Vous êtes riche, vous changez de véhicule, vous passez à l'électrique, vous êtes pauvre, vous allez à pied. C'est pas un discours social qui peut être tenu. De la même manière que dire aux gens vous ne pouvez plus prendre l'avion parce que sur cette distance on considère que c'est le train, c'est pas punitif puisqu'il y a une alternative qui est le train. Leur dire, ah ben vous ne mangerez plus de viande seulement une fois par semaine, là ça serait punitif. Donc quand on a la liberté d'avoir le même service par d'autres moyens, habiter quand même où on veut, se transporter quand même comme l'on veut, parce qu'on a le choix et qu'on flèche un choix pour le bien collectif, on n'est pas dans le punitif.
En tout cas, Christophe Barbier, c'est devenu un clivage, ça. La façon, non pas l'enjeu, je pense que collectivement, l'ensemble de la classe politique a compris qu'il y avait une urgence à agir. En tout cas, sur la méthode pour le faire, là, il y a une forme de clivage.
Oui, il y a un clivage. Il y a un clivage et il y a un défi. Il y a un défi d'abord pour les écologistes, ceux de l'écologie politique. Ils ont trop manié la menace et la punition. Dire, on va interdire, vous ne ferez plus, c'est pas la bonne méthode. Ça braque les électeurs contre eux. Donc ils doivent être dans l'écologie d'entraînement. C'est pour votre bien et surtout celui de vos enfants qu'on va vous amener à changer de comportement, mais on va vous accompagner. Puis bien entendu, c'est devenu une source de clivage parce que sur les partis les plus conservateurs, dans la suite logique du « c'était mieux avant », eh bien, on nous vend l'écologie de grand-papa, une nature qui était une nature qu'on considérait comme plus sympathique et où l'homme avait toute sa place. On sait bien que ce n'est plus possible aujourd'hui. Puis il y a des zones de friction. C'est vrai que la réintroduction du loup, par exemple, était un bel objectif, mais il a été mal contrôlé, mal accompagné. Maintenant, on a créé un autre problème. Donc il faut reprendre ça en main. Ça, c'est la charge des politiques.
Audrey Goudard.
Ce qu'on ne voit pas, c'est que finalement, on peut avoir tous les desiderata politiques que l'on souhaite et économiques en expliquant aux citoyens que c'est punitif, etc. Mais le problème, c'est que le citoyen, pour l'instant, on ne lui dit pas clairement que tout ce qui se passe, tous les enjeux écologiques aujourd'hui, toutes les catastrophes écologiques que l'on vit, ça a un coût énorme. 6 milliards d'euros, la sécheresse, le coût de la sécheresse en 2022, 6 milliards d'euros. Le coût de la sécheresse en 2022, c'est des milliers de morts. Ce sont des personnes âgées dans les EHPAD, ce sont des jeunes enfants lorsque les villes sont trop polluées, etc. Donc en fait, on est en train de payer le coût du dérèglement climatique, on est en train de payer effectivement le coût de tout ce qu'on n'a pas fait pendant des années. Et c'est compliqué à voir et à percevoir parce que ça ne va pas directement. Les citoyens n'ont pas l'impression que c'est pris directement dans leur portefeuille. Mmh. Et ils voient effectivement leur problématique de voiture, ils voient leur problématique de parking, etc. Et qu'on peut tout à fait entendre. De maisons qui risquent d'être détruites, on peut tout à fait entendre ça. Mais néanmoins, c'est un vrai préjudice pour les citoyens aujourd'hui, un préjudice financier qui est là et qui est présent. C'est pas dans quelques années.
Il y a une approche sociale sur toutes ces problématiques-là qui est majeure sur le financement. Vous parliez de cela sur les ZFE, sur le financement de la transition écologique. D'ailleurs, dans sa dernière tribune, Emmanuel Macron a dit « Nous devons accélérer en même temps sur le plan de la transition écologique et de la lutte contre la pauvreté ». Alors, il parlait sans doute aussi de la pauvreté, pas uniquement en France, et peut-être dans le monde. En tout cas, cette notion-là, elle est au cœur du débat. Et quand on fait écho à ce qu'on voyait dans les premiers reportages avec des gens, vous nous disiez, qui se sont installés dans ces zones-là parce que c'était moins cher, c'est aussi eux qui sont impactés.
Vous savez, il y a une expression qu'on entend parfois, fin du monde versus fin du mois. Les politiques, souvent, ils se projettent sur le long terme. Quand on parle de s'adapter aux conséquences du réchauffement climatique, c'est à l'échelle de plusieurs décennies, il faut mettre en place des politiques publiques, ça prend du temps. Et puis la fin du mois, parce que quand on dit aux Français on va vous mettre une taxe sur l'essence pour financer la transition énergétique et écologique, eh bien les Français, après, ils ont le carburant plus cher, et pour ceux qui n'ont pas d'autres possibilités pour l'instant que d'utiliser leur voiture pour aller travailler, c'est compliqué. Et d'ailleurs, ça se reflète aussi dans les enquêtes d'opinion, notamment celles qui étaient évoquées dans le reportage, où on sent quand même que maintenant les Français sont quand même sensibilisés aux enjeux du changement climatique, aux conséquences que ça peut avoir, etc. Mais quand après on en vient aux questions sur êtes-vous prêt à ceci, 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 ceci,
ils disent non.
Point par point, ils disent pas non à tout. Mais en tout cas, c'est pas aussi clair que sur l'aspect sensibilisation. Donc ce que disent souvent les climatologues comme François Gemène, c'est la sensibilisation, on y est, maintenant il faut faire beaucoup, beaucoup de pédagogie sur les actions, les mesures, etc., même pour chacun.
Comment les embarquer, les Français, Christophe Barbier ? Est-ce que le ministre en charge, Christophe Béchu, parvient à les embarquer ? Est-ce que le président lui-même, est-ce que la première ministre arrive à embarquer les Français dans cette mutation-là ?
Non, l'exécutif est un peu en panne parce que d'abord, il y a eu beaucoup de grands discours, beaucoup d'ambition verbale de la part d'Emmanuel Macron sur ces sujets-là et puis un manque de passage à l'acte. On le voit avec cette planification écologique qui était vraiment le grand mot du début de ce second quinquennat et qui pour l'instant n'a pas réussi à accoucher concrètement de textes et de concrets. À l'heure des charges, on sait que c'est des domaines où les résultats sont bien après les actions. C'est dans des décennies qu'on verra les bénéfices des politiques à lancer aujourd'hui. Mais il faut les lancer. Par ailleurs, on bute sur un problème de financement. On est un pays très endetté, on est un pays très fiscalisé. Donc venir bâtir une politique ambitieuse et coûteuse, ça impose de la financer. Donc comment dire aux Français, vous allez payer plus ou vos descendants vont payer plus pour rembourser la dette, mais c'est pour le bien collectif, c'est pas simple du tout.
C'est pas comme ça qu'on gagne les élections, enfin, jusqu'à présent. Hein. En tout cas, c'est des discours qu'on a rarement entendus. Puisque vous parlez de financement, Nicolas Béraud, est-ce que dans les gens que vous avez rencontrés, ils ont l'inquiétude de ne pas être aidés par le gouvernement, par l'État, que sais-je, par ceux qui, à un moment donné...
Les assureurs aussi. Parce que souvent, ces gens-là, donc, ils ont été inondés en novembre, parfois deux fois, le 7 et le 11 novembre, pour être précis. Donc, ils ont fait des dossiers d'assurance. Les experts sont venus où là devaient venir ces jours-ci. Certains ont déjà eu une première aide de 2000, 3000, 5000 euros. Ils ont pu racheter du matériel. Et là, ils sont un peu dans l'inconnu parce qu'une une deuxième demande d'indemnisation en deux mois, pour eux, ils se demandent est-ce que l'assurance va me rembourser autant, etc. En plus, comme les dégâts risquent d'être plus importants, est-ce qu'on va me rembourser En plus, il y a l'histoire de la franchise. Est-ce qu'on va me rembourser à la hauteur? Donc, ils sont vraiment dans l'expectative. Beaucoup ont rappelé leur assurance dès hier, mais ils sont dans l'expectative. Sur le fait, est-ce qu'ils vont être suffisamment aidés à la hauteur de ce drame, parce que c'est un drame pour eux.
Nous allons revenir sur les assurances et même certains assureurs qui refusent d'assurer dans certains territoires désormais. Mais est-ce que l'État a annoncé des aides, je pense aux agriculteurs ou à ceux qui ont perdu une activité? Je parlais tout à l'heure des aides qui avaient été annoncées au mois de novembre. Est-ce qu'on a une idée de l'enveloppe? Est-ce que ces aides-là, il a raison, Xavier Bertrand, ou pas? Est-ce qu'elles ne sont pas arrivées? Est-ce qu'elles auraient dû arriver?
L'enveloppe de novembre, vous en avez parlé. Moi, j'ai pas connaissance de nouvelle aide qui peut être annoncée depuis hier. Mais après, effectivement, l'argent, il faut qu'il arrive pour les habitants, mais aussi, vous parlez des agriculteurs. Oui. Eux qui ont leurs champs inondés, qui ont perdu une partie des cultures, les éleveurs dont les vaches et les bovins étaient très perturbés, donc il y a pu avoir des apportements de petits veaux ou alors une production de lait moindre. Donc l'enveloppe qui a été annoncée, notamment par le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, à l'époque, c'était aussi en grande partie pour les agriculteurs qui sont également très touchés.
Arnaud Gossement, alors, ça sert à quelque chose? C'est vrai qu'en général, on a le déplacement d'un ministre, l'annonce d'une enveloppe, et puis parfois, quand on y retourne six mois après, ce que vous faites souvent quand vous êtes reporter, on se dit, les aides ne sont pas forcément arrivées, les travaux n'ont pas forcément été réalisés, et ça nourrit aussi ce sentiment d'abandon.
Alors, il y a des aides exceptionnelles qui sont... Je n'ai pas eu connaissance d'aides qui n'aient jamais été
passées.
Peut-être que celle-ci ne l'a pas encore été, mais...
C'est un peu tôt.
Mais tout au long de l'année, il y a différents flux financiers qui sont... Par exemple, on parlait du risque d'inondation, il y a la fameuse taxe Genapi qu'on paye dans ses impôts locaux. Il y a le fonds Barnier aussi pour essayer de prévenir les risques d'inondation. Il y a des fonds pour le curage des canaux, la construction des bassins de déversement. Enfin, je vais pas faire...
Des fonds qui sont versés par l'État ?
Alors, ce n'est pas forcément par l'État, c'est généralement par, de, surtout depuis 2018. En 2018, il y a une révolution, c'est surtout les communes et les intercommunalités. Les communes se réunissent, ont un pouvoir fiscal aussi pour financer ce type de mesures contre le risque d'inondation. Et puis, il y a aussi des fonds qui sont liés à d'autres sujets, biodiversité notamment. Il y a un fonds biodiversité qui a été annoncé par la Première ministre l'an dernier aussi. Parce que faire attention aussi à ne pas raisonner en silo. Hein. Juste, le risque eau n'est pas déconnecté du problème, par exemple, des haies, le ruissellement des eaux sur les sols tel que ça s'est produit au Pas-de-Calais, c'est aussi lié à un saccage de la nature et il va falloir, je me répète un petit peu, mais il va falloir aussi la restaurer celle-ci. Juste un point sur la question, si vous me permettez, que vous avez posée à Christophe.
Oui.
Je voulais rebondir là-dessus. Moi, dans mon quotidien, je travaille avec des entreprises. Et c'est vrai que quand je regarde le secteur public et le secteur politique, parfois, il y a de quoi s'inquiéter. Mais quand même, il faut le dire, par exemple, là, au mois de janvier, il y a une énorme législation européenne, la CSRD, bref, je la fais simple, des obligations de transparence environnementale qui sont imposées aux entreprises et pas que les grandes entreprises. C'est une petite révolution. Et ces entreprises les accueillent sans résistance aujourd'hui. Et vous avez des millions de salariés qui participent à cet effort de transition écologique au niveau des entreprises. On en parle très rarement, mais au niveau des entreprises, c'est vrai que quand je regarde ce qui se passe, j'ai tendance à me rassurer aussi. Vous avez plus en plus de métiers directement liés à l'environnement, de plus en plus de jeunes salariés. Oui. Qui n'acceptent pas les erreurs du passé, des chefs d'entreprise pour les retenir, qui sont obligés de faire des efforts, et les étudiants aussi qui s'intéressent à l'environnement.
Arnaud Gosselin, ce que j'entends derrière cette démonstration et cette évocation des entreprises, c'est que ça ne va pas aussi vite, il n'y a pas autant d'agilité dans l'appareil d'État. C'est ça que vous voulez dire aussi ?
Il y a un peu un décalage, effectivement, entre ce que le secteur économique, pas tout le secteur économique, il y a des secteurs économiques qui sont plus difficiles à entraîner, le secteur extractif, pétrolier, etc. Mais même dans ces entreprises-là, vous avez des personnes qui souhaitent investir dans les énergies renouvelables. On a beaucoup parlé, par exemple, de l'entreprise du patron de la COP28 qui, à la fois, produisait du pétrole et aussi des énergies renouvelables. Ça se développe, c'est pas gadget.
Le gouvernement, s'il y avait un ministre à la table, dirait on a des bons résultats, puisqu'il y a eu une communication qui a été faite avant la fin de l'année sur la réduction des gaz à effet de serre sur l'année précédente, moins 4,6% sur l'année 2023. Vous souriez, vous faites la moue, Arnaud Gosselin.
Le 22 décembre, le tribunal administratif de Paris a rappelé dans un énième jugement sur l'affaire du siècle, hein, vous savez, c'est ce collectif d'associations qui a engagé la responsabilité de l'État devant un juge. Et effectivement, il y a une réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais comme François Jomène l'a dit sur votre plateau, pour l'essentiel, c'est des causes extérieures. Et c'est écrit à la volonté du gouvernement. La crise en Ukraine, l'augmentation du coût de l'énergie, etc., etc. Ce ne sont pas des causes qui sont liées à une décision publique. Maintenant, il y a des décisions publiques qui, fort heureusement, contribuent aussi à cette baisse, mais elle n'est pas suffisamment rapide. La trajectoire n'est pas la bonne.
Un dernier mot, juste avant d'aller au troisième reportage, Christophe Barbier, ce sera un enjeu des Européennes, sujet dont nous parlons là ce soir.
Oui, ce sera un enjeu européen dans tous les sens. C'est-à-dire d'abord parce qu'il y a une forte législation européenne, on le rappelait, donc il y aura des contestataires qui nous diront Bruxelles nous empêche de diriger comme on veut nos entreprises et nos vies. Ça sera un enjeu européen aussi parce que les nuages n'ont pas de frontières, donc les catastrophes, elles arrivent un peu partout. Et tout le monde a ses catastrophes. Et puis ça sera un enjeu des Européennes également parce que ça rentre dans une période où on raisonne entièrement par le risque. Le risque géopolitique, la guerre, le risque économique, le risque épidémique, on l'a éprouvé il y a 3 ans, et le risque climatique. Donc c'est très difficile de faire campagne aujourd'hui sans être monsieur ou madame anti-risque avec ses recettes.
Alors il y a les inondations dont nous avons parlé ce soir, mais il y a un danger peut-être moins spectaculaire qui menace 20% du littoral français. Il s'agit de l'érosion. La mer monte, grignote les plages, les terres, menace même parfois les habitations. C'est le cas à Tardigaine dans le Pas-de-Calais. Reportage Aubry Perrault et Mathias Garnier.
Il paraît que c'est à sa lumière qu'on reconnaît la côte d'Opale. Mais un autre élément devient particulièrement frappant dans ce paysage du Pas-de-Calais. La mer grignote peu à peu la plage et s'attaque désormais aux maisons. Dans la baie de Wissant, 350 sont menacées à terme, dont celle de Sophie Ségard.
Il y a 25 ans avec mes enfants, la dune était complète devant, de partout. À droite, à gauche, et on ne voyait absolument pas la mer. Et là, je la vois de plus en plus large, de plus en plus bas. D'ailleurs, quelquefois, je prends mon petit-déj devant la vue, quoi. Pas tous les jours, parce qu'il y a des jours, c'est déprimant.
Cette propriété héritée de son père pourrait bien disparaître d'ici une vingtaine d'années. Et Sophie en a conscience.
C'est une maison qu'on a construite, dans laquelle j'ai vécu avec mes enfants jeunes. C'est ma ressource en quelque sorte, c'est mon lieu, c'est ma terre.
Dans le coin, certaines habitations continuent de se vendre très cher, malgré la menace. Sophie se pose donc la question, faut-il attendre et tout perdre, ou se dépêcher avant qu'il ne soit trop tard?
Les gens, hein, quand viennent l'été, me disent « Ah, c'est le paradis ici !» Je dis « Oui, mais quand on touche le paradis, on touche l'enfer aussi. » Pas au même moment, mais voilà. Donc, et puis la question, l'eau, bon, elle vient. Mes enfants tiennent à cette maison, c'est un lieu de famille, donc ils veulent le garder. C'est vrai que prendre la décision d'abandonner, c'est une décision difficile. Donc, bon, tout ça tient un peu sur des... Je sais pas, par des fils. Des fils à coudre, d'ailleurs.
Comment envisager l'avenir dans ces conditions? Faire des projets? D'autant que les conséquences de l'érosion côtière ne sont pas prises en charge par les assureurs.
Les assureurs... Bah, je sais pas. Oui, là, les assureurs, ils sont un peu compromis, là. Ça va leur coûter chaud. Est-ce qu'ils vont payer? J'en sais rien. Je compte sur moi, quoi. Je compte sur moi.
Sophie peut aussi compter sur son frère, qui est également le maire du village.
Donc là, on est chez Alain.
Il mène un combat pour que les habitants qui ont, pour certains, déjà perdu leur jardin, soient indemnisés.
Ça, c'est une bande pour délimiter la propriété de quelqu'un. Cette propriété, maintenant, est dans l'eau. Et il y en avait une autre, 200 mètres plus loin, qu'on peut voir à marée basse, et qui délimitait la fin de son territoire d'à l'époque. Tout ça est parti à l'eau. Et maintenant, c'est le jardin des phoques.
Ces trois maisons qui donnent directement sur la plage seront démolies dès l'année prochaine. D'ici là, c'est le système D.
Dans le but de maintenir la maison pour jusqu'à son démontage, donc pour une petite année, on a cherché un filet de pêche récupéré au port des Boulognes et on l'a rempli de morceaux de bois. Ça marche très bien, donc on va en faire deux autres. C'est moche, mais c'est efficace.
Du bricolage qui ne résout pas tout. Qui doit dédommager les habitants? Le maire en appelle à l'État, car l'érosion côtière n'est pas considérée comme une catastrophe naturelle pour l'instant.
Quand vous êtes inondé, ça rentre dans une catastrophe naturelle. Quand vous avez l'érosion, c'est un risque connu. Donc, ce qui est complètement incohérent. Donc, pour l'instant, c'est une patate chaude que l'État renvoie aux collectivités locales. Et les collectivités locales disent « votre loi, elle est incohérente ».
Des élus locaux à qui le gouvernement a promis des propositions concrètes d'ici fin 2024. 20% du littoral français est aujourd'hui directement menacé.
Arnaud Gossemont, votre réaction à ce reportage. Qu'est-ce qu'on dit aux gens dont le jardin est sous la mer? Comment est-ce qu'ils vont être, par qui vont-ils être indemnisés?
La première des choses, c'est d'abord de les protéger. Et pour les protéger, il faut les informer. Et il y a aujourd'hui encore une pression extrêmement forte sur les parties littorales. C'est même là où elle est la plus forte, de la part de personnes qui souhaitent acheter des maisons. On a le sentiment que l'information ne se diffuse pas et qu'il y a encore de l'immobilier, des projets immobiliers dans des zones où, objectivement, on ne devrait pas les faire. Et la deuxième chose, c'est qu'après, alors, il y a l'assurance des assureurs, c'est-à-dire l'assurance privée cette fois-ci. Le problème, c'est que les primes d'assurance habitation ont tendance à augmenter. Et on voit effectivement en Normandie, dans le Bessin, il y a une région dans laquelle les assureurs ne souhaitent plus assurer, notamment à cause des problèmes d'érosion côtière. Et puis, si vraiment votre maison doit être démolie, mais c'est récent, c'est depuis 2021 que la loi a perfectionné le dispositif pour lutter contre le recul du trait de côte. Vous pouvez être exproprié. Il y a un oui. cas célèbre, la résidence Signal, que tout le monde a vu en Aquitaine, qui était de plus en plus au bord de la mer. Donc les personnes peuvent bénéficier, elles sont malheureusement chassées de chez elles, mais elles peuvent bénéficier d'une expropriation pour cause environnementale. Mais c'est un dispositif qui est totalement balbutiant, et comme votre reportage le précise, c'est en 2024 que ça sera perfectionné.
Oui, parce que Audrey Goutard, on voit très bien dans ce reportage que la dame, elle se dit, bon, je ne sais pas trop vers qui me tourner, elle voit monter le niveau des eaux, elle voit son jardin disparaître sous la mer, et elle est un peu démunie.
Elle est d'autant plus démunie que les assurances ne prennent pas en compte cette érosion. Et ne vont pas la couvrir. Donc elle ne sera pas couverte par les assurances. Elle est, comme elle le dit très justement, elle ne compte que sur elle-même. Et on voit ce désespoir qu'on rencontre à la fois dans les zones inondées du Nord, qu'on a rencontré cet été lorsqu'il y a eu les grands feux en Gironde. C'est le désespoir des gens face aux éléments déchaînés de la nature, quelque part. Et c'est vrai que seul l'État l'État paraît assez puissant pour y faire face, à part des politiques de grands travaux, par des lois, effectivement, des législations qui vont se mettre petit à petit en place. Mais il y aura évidemment des victimes. Parce que le temps que tout se mette en place, le temps qu'on arrive à s'en sortir, eh bien, il y aura un temps de latence et ces victimes, elles seront dans ce temps de latence.
Ça n'a pas de sens d'imaginer faire des digues ?
Non, parce que non. Vous déplacez le problème. Hein.
Non. On protège les gens qui habitent dans ces maisons.
Mais objectivement, face à la nature aujourd'hui, d'ailleurs aux Pays-Bas, ouais. C'est ce que je précisais tout à l'heure, on abandonne ce système-là alors que les Pays-Bas ont vécu avec les digues.
D'autant plus, si je puis me permettre, que par exemple, les inondations du Nord, elles sont aussi victimes des digues. Parce que l'engorgement des sols, le fait qu'effectivement l'eau s'écoule mal, le principe de l'eau, c'est de s'écouler vers la mer. Mais si vous mettez des digues et des polders, et c'est ce qui se produit,
et la mer monte en plus.
Et la mer monte parce que les digues et les polders sont créés pour face à la mer qui monte, donc le ruissellement rencontre la mer qui monte plus les digues et n'arrive pas à s'en sortir. Donc finalement, tant qu'on n'aura pas une politique qui sera totalement nationale et même européenne, puisque je vous rappelle que l'Allemagne est touchée aussi par des inondations actuellement, donc européenne, on ne pourra pas pallier à ce type de problématique. Et puis juste un tout petit point, lorsque la mer gagne du terrain sur la terre, c'est l'État français qui en profite. C'est-à-dire que là, c'est des zones de pêche et des zones qui appartiendront à l'État et c'est des formidables viviers pour l'État.
Cette question de Jean-Claude en Meurthe-et-Moselle, dans l'avenir, comment les familles les moins riches parviendront-elles à payer leurs assurances? On a un chiffre sur les tarifs des assurances en 2024 avec des projections d'augmentation de plus 5 à 6% pour l'habitation, pour l'automobile plus 3,5%. Ce sont des prix qui sont amenés à monter de toute façon.
Oui, et qui vont monter jusqu'au jour où on aura réussi à sortir assez d'un grand nombre d'habitations des zones à risque, et donc il y aura moins d'habitations abîmées chaque année par les catastrophes qui arriveront, et donc les primes iront à la baisse. Ça va prendre un certain temps. D'ici là, les primes vont augmenter, c'est des dépenses contraintes, ça va rejoindre tout le débat qu'on a sur l'inflation au sens large, et donc de combien faut-il augmenter les salaires, et notamment les salaires des familles modestes, pour qu'elles puissent encaisser cette dépense contrainte qui est l'assurance.
On parlait des surprimes d'assurance tout à l'heure, hein, à propos des catastrophes naturelles. Les surprimes des assurances qui financent le régime passera de 12 à 20% en 2025. Là aussi, on sait que ça va plutôt aller dans ce sens-là. Il n'y a pas de raison que les choses s'inversent.
Non, il n'y a pas de raison que les choses s'inversent. Les risques vont a priori se multiplier, s'intensifier avec des zones où les assurances, comme l'a dit Arnaud Gossement, maintenant se désengagent. Donc non, il n'y a pas de raison que ça s'inverse.
Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur France.tv, bien évidemment. À bientôt.